Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Le mois dernier, à Cuba, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les pénuries d'électricité et de nourriture. La colère monte tandis que l'île s'enfonce dans une crise économique et sociale sans précédent. Pour la première fois depuis la Révolution, le gouvernement cubain a fait appel au Programme alimentaire mondial. La jeunesse fuit le pays, les infrastructures tombent en ruine et les investisseurs sont aux abonnés absents. Le régime cubain, de plus en plus chahuté, peut-il faire l'économie d'un changement de modèle ? Pour ce premier épisode de notre série sur les dernières économies communistes du monde, nous avons invité Célia Himmelfarb, économiste, professeure invitée à l'Institut des hautes études d'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle, et Blandine Destremau, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Iris EHESS, autrice de cet ouvrage « Vieillir sous la révolution cubaine, une ethnographie » paru aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en 2021. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Célia Himmelfarb et Blandine Destremau.
Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Bonjour, merci à toutes les deux d'être là. Alors Cuba subit un embargo depuis 1962 et sa situation économique est critique depuis plusieurs années. Mais la tempête qu'elle traverse aujourd'hui est peut-être la plus grave depuis la Révolution, Célia Himmelfarb.
Oui, si on peut parler des tempêtes, en effet, il s'agit d'une tempête et une crise majeure depuis ce qu'on appelle la période spéciale 91-92, lorsque c'est l'effondrement de l'ex-Union soviétique et l'équipe de Gorbatchev décide presque d'arrêter toute aide à Cuba. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont vécu de moments très très durs parce qu'ils n'avaient plus l'aide soviétique. La dette avait augmenté et l'ex-Union soviétique ne les aide plus, ni au niveau des aliments, ni au niveau énergétique, et non plus au niveau, bien sûr, financier.
Et oui, la dernière crise en date extrêmement grave, c'est effectivement au moment de la chute de l'URSS. C'est un moment où l'on s'est demandé, Blandine Destremau, si le modèle communiste allait se maintenir à Cuba.
Oui, effectivement, ça a fait date comme crise puisque le régime cubain tenait largement grâce à ses alliances avec les pays de l'Est. Mais en même temps, la question de la crise se pose de manière continue. Et comme on le verra probablement plus tard dans l'émission, il est juste de se demander s'il s'agit vraiment d'une crise alors que depuis maintenant presque 35 ans et probablement dans des épisodes précédant la période spéciale, le régime cubain s'est retrouvé dans des difficultés économiques qui sont plutôt structurelles que conjoncturelles.
Alors justement, on va entrer un petit peu dans le détail de ces difficultés. Aujourd'hui, c'est un effondrement économique que le pays fait face, et notamment une grave crise de liquidité, Célia Himmelfarb.
Oui, lorsque vous dites que c'est une tempête, il y a des indicateurs pour nous, les économistes aussi, les sociologues et politologues, c'est que la production est divisée par 5 hein, entre l'année 2022 et à l'heure actuelle. Il y a seulement 27,4 milliards de dollars de PIB. Aussi, l'investissement direct international diminue et aussi un problème de liquidité, c'est qu'avec la réforme monétaire du 1er janvier 2021, on a instauré un seul peso par rapport au dollar. Et ça, de partie dans une inflation en pesos et une inflation aussi en dollars. Donc, les problèmes de liquidité majeurs parce qu'ils n'ont pas les réserves et ils doivent payer 70% de l'alimentation. Cuba est dépendant, n'est pas la souveraineté alimentaire, dépend de l'étranger pour 70% de l'alimentation. Donc, manque de réserves, mais sur liquidité en pesos, vous voyez.
Et alors, il y a beaucoup d'éléments, hein, beaucoup de facteurs qui existent aujourd'hui, la crise que traverse Cuba, mais l'un des premiers facteurs, sans doute, c'est le renforcement de l'embargo par Donald Trump au moment de son mandat. On se souvient que cet embargo avait été assoupli à l'époque de Barack Obama. Et depuis l'inscription du pays sur la liste des États soutenant le terrorisme début 2021, on peut dire vraiment que les investisseurs fuient Cuba, Blandine Destremau.
Les investisseurs fuient effectivement Cuba du fait de l'embargo qui rend toute la chaîne productive très compliquée à boucler puisqu'il y a des interruptions dans une filière productive, il y a des interruptions du fait de la difficulté d'approvisionnement en équipement mais aussi en intrants. Les investisseurs fuient également Cuba parce qu'il y a une très très forte incertitude qui est due pour beaucoup à la centralisation en fait du régime productif et du régime de décision. Donc c'est un pays qui est considéré par certains comme failli et dans lequel effectivement il n'est pas du tout sûr d'investir, qui est très très endetté et où il y a une très forte incertitude dans les chaînes productives, dans les alliances politiques et dans la stabilité monétaire. Il y a aussi, comme l'a dit Célia Himmelfarb, un double taux de change maintenant de fait. Et une très grande incertitude de change, même pour nous, quand j'y vais travailler, par exemple, on est toujours dans une incertitude au quotidien.
Oui, une incertitude qui pèse sur l'économie. Et aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement compliqué pour une entreprise américaine de faire des affaires à Cuba. Célia Himmelfarb, il y a des risques importants à la clé.
Bien sûr. Vous aviez évoqué l'embargo instauré en 1962 qui n'a jamais été révoqué. Et le révoquer, c'est seulement une attribution de la Chambre des représentants des États-Unis. Même Barack Obama n'a pu rien faire, lever l'embargo, parce que ce n'était pas une attribution de la présidence des États-Unis. Ensuite, comment ça a évolué la législation pour empêcher les investisseurs arrivés à Cuba. Il y a la loi Torricelli de Bush père, déjà, qui empêchait, si vous voulez, l'arrivée des investisseurs, l'arrivée des bateaux à Cuba. Et ensuite, la loi Helms-Burton, que c'est Bill Clinton qui la fera en 1996, et Madeleine Albright. Et là, c'est aussi la jurisprudence territoriale. Ça veut dire que c'est pas concernant seulement Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Une entreprise étrangère qui s'installe à Cuba, les États-Unis peuvent faire des poursuites transterritoriales. Et ensuite, Barack Obama a assoupli un petit peu, mais Donald Trump, comme vous l'avez très très bien dit, reviendra en 2019 avec un durcissement, loi Helms-Burton, plus 275 normes qui vont contraindre, si vous voulez, les investisseurs étrangers d'arriver à Cuba.
Des sanctions américaines renforcées qui restreignent notamment les possibilités d'envoi d'argent vers Cuba, alors que l'argent de la diaspora est essentiel pour l'île, Blandine Destremau.
L'argent de la diaspora est essentiel pour les investissements qui se font maintenant dans le cadre des MIPIMES, des petites entreprises, essentiel également pour les micro-entreprises familiales que les familles et les personnes lancent pour arriver à survivre ou à entreprendre, essentiel également pour la survie quotidienne, puisque une très grande partie de l'argent envoyé consiste en petites sommes qui sont dépensées pour l'alimentation et pour les besoins de tous les jours. Et de plus en plus, l'argent de la diaspora est également utilisé pour les migrations, pour financer en fait des trajets migratoires.
Et oui, des trajets migratoires qui sont de plus en plus importants. On va y revenir, mais d'abord, il faut sans doute parler de l'impact de la pandémie, hein, qui a été absolument considérable sur l'économie cubaine. C'est-à-dire que non seulement la Covid-19 a plombé l'économie touristique de l'île, mais ce que l'on observe aujourd'hui, Célia Himmelfarb, c'est que Cuba peine à s'en remettre par rapport à d'autres pays voisins comme la République dominicaine ou le Mexique, dans lesquels les touristes sont revenus.
Exactement. Donc, tout le, comme vous évoquiez, les virements internationaux, qui étaient très importants avant la Covid, hein, ça veut dire qu'il y avait 5 milliards de dollars qui arrivaient par an de la diaspora cubaine pour aider, en fait, les familles. Mais après, il y a eu deux phénomènes, le Covid, plus une décision de Donald Trump d'empêcher les virements par Western Union, que c'était la manière la plus rapide où les virements pouvaient être faits. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de reprise après le Covid? Je vous disais que la production était divisée par 5. Hein. L'année 2020, la production était de 108 milliards de dollars et aujourd'hui, elle est de 23, 24 milliards. Vous vous rendez compte? Donc, première chose, le tourisme en 2018 atteignait plus de 4 millions de personnes, presque ça s'approchait à 5 millions de personnes qui arrivaient. Maintenant, elle est tombée à même pas 2 500 000. Donc, pas de devises du tourisme. Donc, pas de production, chute de devises, chute des virements internationaux et chute des les virements qu'on appelle HMS, des familles des Cubains qui sont à l'étranger. Donc, Cuba a du mal à se remettre parce que l'économie s'effondre, si vous voulez.
Oui, l'économie s'effondre et peut-être on peut dire un mot des raisons qui ont présidé à cette décision de renforcer ainsi l'embargo. Donald Trump voulait notamment réduire le tourisme sur l'île avec cet argument selon lequel 80% de l'appareil touristique de Cuba est détenu par l'armée, ce qui est vraiment le cas, Célia Himmelfarb.
Oui, c'est ça. 80% de tous les produits touristiques, que ce soit l'hôtellerie, les restaurants, les cars pour les touristes, les services touristiques, sont contrôlés par l'armée. Et dans un discours de Donald Trump en août 2017 à Miami, il était très formel en disant « Pourquoi je vais autoriser des entreprises américaines d'aller à Cuba si 80% de l'armée cubaine va profiter de ces sommes-là » Et c'est pour ce pourcentage qu'il donnait Donald Trump était exactement le pourcentage que nous, on avait en France du service de commerce extérieur de la France. Donc, c'est imparable hein, ce qu'il disait. Et voilà. Mais il a durci énormément les mesures que Barack Obama avait permis. L'arrivée des États-Unis à Cuba et puis de pouvoir faire des virements avec beaucoup de facilité. Voilà.
Blandine Destremau, peut-être sur la baisse des recettes touristiques qui représente un manque à gagner considérable pour Cuba.
La baisse des recettes touristiques affecte énormément les revenus, non seulement de l'armée, comme vient de le dire Célia Himmelfarb. Effectivement, l'armée possède une très très bonne grande partie de l'économie rentable, non seulement touristique, mais également le bord de Mariel, une bonne partie également des établissements qui rapportent des devises. Mais la partie restante, elle se diffuse dans la société, puisque ce sont des chambres chez l'habitant, des guides touristiques, des petits restaurants. Donc la réduction des recettes touristiques affecte toute la survie des familles et pas seulement des établissements qui appartiennent à l'armée. Elle se traduit également par une espèce d'abandon de certains territoires qui avaient investi dans l'accueil des touristes et dans une espèce de visibilité à l'étranger. Et ce que je dis aussi, c'est que le tourisme états-unien, en quelque sorte, se maintient puisqu'il est, pour une bonne part, le fait de personnes qui sont cubano-américaines. Le tourisme russe, apparemment, augmente également. En revanche, le tourisme européen préfère se diriger vers des destinations plus sûres puisque en Europe, il est maintenant quasiment de notoriété publique qu'il y a beaucoup de pénuries à Cuba et que le touriste ne peut pas vraiment bénéficier des conditions qu'il est en droit d'attendre. Et c'est précisément le tourisme européen qui s'adresse le plus aux chambres particulières, aux chambres chez l'habitant et qui se diffusait le plus dans la société.
Cuba, aujourd'hui, s'enfonce dans la crise et souffre également des difficultés de l'un de ses grands soutiens, le Venezuela.
Comme era de esperar, Comme nous pouvions nous y attendre, dans le but de provoquer le découragement et l'incertitude de la population, des rumeurs et des spéculations commencent à apparaître. Elles évoquent un effondrement imminent de notre économie et la prévision d'un retour à la phase sévère de la période spéciale que nous avons vécue à partir des années 90 du siècle dernier et que nous avons su surmonter grâce à la capacité de résistance du peuple cubain et à sa confiance illimitée dans Fidel et le parti. Nous ne pouvons pas nier que nous pourrons souffrir de certains désagréments qui pourraient être pires que ceux de l'époque, mais nous sommes préparés, et ceci dans de meilleures conditions qu'à l'époque, pour renverser la situation.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons de la crise économique cubaine avec Blandine Destremau et Célia Himmelfarb. C'était l'ancien président cubain Raúl Castro le 9 juillet 2016. À cette date, le Venezuela de Nicolas Maduro plongeait dans une crise politique, institutionnelle, économique, ce qui a eu un impact direct sur Cuba, Célia Himmelfarb.
Oui, absolument. C'est-à-dire que l'ex-Union soviétique s'arrête de Cuba en 1991. Mais néanmoins, Poutine va aider en 2016 à réduire 90% de la dette, qui était la dette avec l'URSS. De 35 milliards de dollars, il efface 90%. Et Cuba, lorsqu'elle est l'ex-Union soviétique, va la laisser tomber, se retourne vers le Venezuela, grand pays exportateur de pétrole, et il va être signé un accord avec Chavez, donc un accord d'échange. Pétrole contre des médecins et pétrole contre des coopérants militaires cubains, pétrole contre des médecins cubains. Je vous signale qu'il y a 450 000 coopérants militaires au Venezuela qui participent à l'heure actuelle à la répression au Venezuela. Avec le gouvernement de Maduro à l'heure actuelle. Donc, ces retournements vers le Venezuela va aussi être négatif parce que le Venezuela rentrera à son tour en crise et ne peuvent pas exporter du pétrole vers Cuba parce qu'elle-même doit importer du pétrole. Étant donné que c'est aux États-Unis qu'on faisait le raffinage du pétrole brut, à l'heure actuelle, le Venezuela ne peut plus compter avec les États-Unis. Eux-mêmes, ils sont amenés à importer du pétrole. Donc, la crise avec l'ex-Union soviétique et la Russie, la crise avec le Venezuela, et la Chine est très frileuse, n'est pas trop Cuba non plus, le Vietnam un peu. Vous voyez, et surtout, il y a beaucoup d'accords avec l'Iran, au niveau militaire, sécuritaire et forage pétrolier dans la Caraïbe, côté Caraïbe cubaine. Voilà.
Mais ce qui effectivement joue un rôle important dans cette crise, c'est la réduction des soutiens de Cuba, Blandine Destremau, pour plein de raisons différentes, comme on l'a entendu.
Oui, parce que Cuba a toujours été dépendant finalement d'aides extérieures, que ce soit des aides économiques ou politiques, et la réduction notamment de l'exportation de services médicaux qui rapportait à Cuba des devises complètement primordiales pour sa survie, cette réduction a des impacts également importants sur toute la chaîne finalement d'importation, puisque Cuba, du fait de l'embargo, est contraint de payer ses importations très largement en effectif, en cash en fait. Et donc, c'est les entrées en devises qui permettent directement de payer les importations. Et donc, la perte et l'affaiblissement des alliances internationales se traduit très très directement par une difficulté à importer des biens et des biens de première nécessité pour la population.
Elle semble bien loin, cette période, presque une période bénie pendant les deux mandats de Barack Obama, où l'économie cubaine se portait relativement bien, Célia Himmelfarb.
Écoutez, c'était une période, comme vous dites, un peu une parenthèse dans les crises que Cuba venait de vivre. Mais ce qui était important, c'est qu'avant 2014, lorsque Barack Obama et Raúl Castro signent le retour des relations diplomatiques, moment essentiel parce que c'était négocié pendant 2-3 ans, et le Vatican a joué un rôle essentiel dans les négociations de retour aux relations diplomatiques. Et donc ça, c'est un moment, je dirais, un peu exceptionnel, parce que Barack Obama s'est rendu à Cuba. Il était plus populaire même que Raúl Castro, parce qu'il était d'origine, donc il est d'origine toujours afro-américaine, et que c'était, après Jimmy Carter, la personnalité la plus importante des États-Unis en tant que président qui venait à Cuba. Et aussi, beaucoup de touristes, et Barack Obama avait assoupli aussi les exportations des produits agroalimentaires des États-Unis vers Cuba. Donc, les gens qui ont pu voyager à cette époque à Cuba, c'était mon cas, ont observé, si vous voulez, qu'il y avait moins de pénuries, effectivement.
Alors qu'aujourd'hui, effectivement, les pénuries sont considérables. L'île manque en particulier de pétrole pour alimenter ses centrales électriques, précisément parce qu'on l'a dit, le Venezuela réduit ses livraisons de fuel et de diesel au tiers de ce qu'il livrait jusqu'à présent. Résultat, les coupures de courant se multiplient, ce qui a un effet catastrophique sur l'économie du pays, Blandine Destremau.
Oui, effectivement, les coupures de courant se multiplient. C'est ce qui a motivé pour bonne partie les manifestations qui a eu à lieu à l'est de l'île. Ce que je voudrais rajouter sur la période Obama également, c'est qu'elle a suscité de très très grands espoirs. Et moi qui suis essentiellement sociologue, même si je suis aussi économiste, je constate en allant régulièrement à Cuba que c'est une forme de désespérance maintenant qui prévaut, où les gens, mais surtout les plus jeunes ou les adultes jeunes, ne voient pas de perspective de transformation pour leur futur et aucune possibilité finalement d'envisager un futur. Alors que Obama, la visite d'Obama et toute cette période d'effervescence avait ouvert en fait non seulement des mesures concrètes, comme le disait Célia Menfarb, mais aussi des espoirs, des espérances que les choses allaient changer, que d'autres choses seraient possibles, et en particulier du côté de l'entreprise privée. Maintenant, les obstacles sont énormes. L'autorisation en fait d'entreprendre en petite entreprise a ouvert de nouveau des espérances, mais les problèmes d'approvisionnement, les problèmes bureaucratiques ne laissent pas de place réellement pour réaliser ces espoirs. Et oui. Effectivement, les coupures de courant sont désespérantes, décourageantes. Ça perturbe complètement même l'économie domestique des familles, puisque les réfrigérateurs ne se maintiennent pas froids, donc la nourriture qu'on arrive à obtenir pourrit. Enfin, c'est toute une gestion finalement quotidienne qui handicape énormément les familles et les personnes. L'air conditionné, par exemple, pour recevoir des personnes touristes, des touristes qui louent des chambres, ne peut pas être garanti. L'électricité est vraiment une nécessité de base à Cuba comme ailleurs d'ailleurs, mais sur laquelle les gens comptaient, puisque c'est une économie qui est quand même relativement moderne. Et finalement, c'est une perturbation décourageante et désespérante.
Et oui, c'est désespérant pour la population qui a de plus en plus de mal à trouver de quoi se nourrir.
Ça, c'était l'année passée. Il y en avait beaucoup plus. Du riz, du sucre, des haricots, du beurre. On avait tout avant. Maintenant, ouais, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a que ça. Avant, la livre de riz te coûtait 5 pesos cubains. Maintenant, c'est 200.
La première chose que je fais le matin, c'est de penser à la nourriture que je vais donner à mon fils et lorsque je m'endors, à ce que je vais lui donner pour son petit déjeuner.
Les 7 livres de riz ne suffisent pas pour le mois. Ils ne les donnent plus à temps. Ils les donnent le 5 ou le 20 ou le 25 du mois. Ils nous donnent 2 à 3 livres. Un pays sucrier comme Cuba, ce pays est entouré d'eau salée, la pénurie de sel n'est pas possible. Alors pourquoi ?
Voilà des témoignages recueillis par France 24 et l'AFP. Désormais, pour trouver de quoi se nourrir, il faut rejoindre les interminables files d'attente. Célia Himmelfarb, avec également la Libreta, ce carnet d'approvisionnement qui permet de moins en moins d'obtenir de la nourriture.
Exactement. La Libreta, qui était créée un petit peu comme en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, pour se nourrir, huile, sucre, farine, beurre, vous voyez. Mais maintenant, avec cette Libreta, on achète de moins en moins.
Il faut rappeler que cela permettait d'acheter de la nourriture avec des tarifs extrêmement préférentiels, parce que oui, largement subventionnés.
Exact. Et très subventionné par l'État. Vous savez que beaucoup de choses étaient subventionnées par l'État, l'électricité, la santé, la nourriture de base, effectivement. Maintenant, on a ouvert des magasins où on peut acheter en dollars. Et ça crée un tel décalage avec la population, le peuple, qui n'accède pas avec la librette à se nourrir des biens de première nécessité et des produits, je dirais pas des luxes, mais qu'on accède avec l'achat des dollars. Et qui accède aux dollars, vous avez bien dit, Blandine Destremont disait, les tourismes, bon, la plupart, elle est vers l'armée, mais la population, par ruissellement, en quelque sorte, par ricochet, aussi bénéficiait du tourisme à une moindre mesure, mais quand même, ils arrivaient à manger. Maintenant, donc la population rentre dans un état de pauvreté absolue. Et je tiens à vous dire que 9 Cubains sur 10 n'arrivent pas à manger convenablement. Ça veut dire que les indices que nous on a, c'est d'un taux de pauvreté de 90%. À Cuba aujourd'hui.
Avec des différences territoriales qu'il faut rappeler, Blandine Destremault, globalement, La Havane s'en sort plutôt mieux que le reste du pays.
Oui, je voudrais juste passer quelques minutes à expliquer le système d'inflation et de pénurie. Les pénuries ne sont pas absolues. Depuis que les petites entreprises sont autorisées à importer, on trouve à Cuba, et à La Havane en particulier, effectivement, pratiquement tout. Mais le cloisonnement du système de prix fait que pour de très nombreuses personnes, et notamment ceux et celles qui n'ont que les pensions publiques ou les salaires publics comme revenus, leur rend quasiment impossible de s'approvisionner en dehors de la libretta et des biens extrêmement subventionnés pour aller vers des prix beaucoup plus chers. Donc quand on a de l'argent, c'est un peu évident de le dire, mais quand on a de l'argent, non seulement on n'est pas pauvre, mais on n'a pas nécessairement de pénurie. Les pénuries affectent ceux qui ne peuvent pas aller vers les systèmes de prix les plus onéreux et qui sont importés par les commerçants privés. Donc effectivement, il y a des très très longues files d'attente. Obtenir alors du poulet en particulier, il y a une espèce d'obsession sur le poulet parce que c'est pratiquement la seule source de protéines animales et les Cubains sont habitués à manger de la viande une ou deux fois par jour, même si c'est un tout petit morceau, les queues pour le poulet absorbent une partie très très importante de la vie quotidienne des gens. Il y a tout un système également de courtiers, de queues, de files d'attente, coleros ou mensajeros, qui vont faire la queue à la place des gens, donc ils se font bien entendu rémunérer. Et ces difficultés d'approvisionnement sont totalement obsessionnelles et beaucoup plus importantes dans les villes de province, dans lesquels il y a moins de brassage, moins de commerçants privés et moins d'importations par les petites entreprises. Mais moi j'ai rencontré des gens qui me disent, des femmes en particulier, qui me disent « j'ai pas le temps de travailler parce que je dois aller faire la queue ». Et ça prend toute la journée, les gens se lèvent très très tôt, vont se placer sur la queue très tôt le matin pour essayer d'avoir de l'approvisionnement. Parfois font la queue pendant 24 heures et dorment sur place, et parfois arrivent au bout de la queue pour qu'on leur dise que le produit est épuisé et qu'il n'y en a plus. Et c'est vraiment un découragement, un poids énorme dans la vie quotidienne des gens. Les conversations tournent toujours autour des prix, des pénuries. Où est-ce qu'on peut trouver ceci, cela? Où est-ce que tu as trouvé du poulet? Où est-ce que tu as trouvé du riz à ce prix-là? Ça réduit en fait pas l'espérance de vie, mais enfin la sphère de vie, la sphère mentale de préoccupation à des choses qui relèvent de la survie quotidienne.
Et quel signal est-ce que cela envoie, Célia Himmelfarb, que Cuba aujourd'hui ait besoin de faire appel au programme alimentaire mondial? C'est la première fois depuis la révolution de 1959.
C'est vrai, Tiffany Rokinis, ce que vous venez d'affirmer, et ce que Blandine Destremont dit sur la situation quotidienne, et ce que disaient toutes les deux, le commerce parallèle, si vous voulez, entre ceux qui ont des devises et ceux qui n'ont pas. Maintenant, pour le programme alimentaire mondial, c'est la première fois, et pour eux, qui étaient très fiers de ne pas demander ni au Fonds monétaire, ni à la Banque mondiale, ni à l'ONU, aucune aide, c'est un problème très grave pour eux, mais ils sont obligés de demander. Je veux dire aussi que tout ce que tu es en train d'analyser, le problème des pénuries alimentaires notamment, c'est le produit d'un mode de production. Et ça, c'est le cœur, à mon avis, du problème, parce que Cuba pourrait être autosuffisante. C'est-à-dire qu'on a développer un modèle économique depuis 1962, des monoproductions, ce fameux, les sucres. Après, on a essayé de diversifier, et bien sûr, les technologies modernes, les vaccins, le tourisme, etc. Mais du point de vue alimentaire, on n'a jamais pu résoudre l'équation par le type de mode de production. Hein, et on peut nourrir de manière autonome les Cubains. Un exemple, lorsque la chute du mur de Berlin et la Gorbatchev, lorsqu'il se détache de Cuba en 1991, ils ont eu un problème assez énorme, c'est qu'eux, ils cultivaient 6 mois les pommes de terre à Cuba et l'Allemagne ou les autres pays de l'Est cultivaient 6 mois. Donc, lorsque c'était l'hiver en Europe de l'Est, Cuba produisait. Lorsque Gorbatchev décide donc de ne plus aider Cuba, ils sont restés avec toute la production de pommes de terre qui devait partir dans les pays de l'Est. Donc ça, c'est une illogique économique complète. Cuba faisait partie du Comecon et commerçait avec Moscou à 85%. Donc il faut que
Comecon, qui était ce partenariat économique au temps de l'URSS.
Bien sûr, un bloc d'intégration régionale. 85% avec l'URSS. Donc, si on regarde la pénurie, le problème de production, la demande au programme alimentaire mondial, et on n'analyse pas qu'est-ce qui s'est passé, pas ces dernières 10 années, mais un choix des modèles économiques, c'est là qu'on va trouver le cœur de pourquoi les pénuries, vous voyez.
Et c'est en plus un modèle économique qui fonctionne d'autant moins qu'aujourd'hui, l'industrie sucrière traverse une mauvaise passe. La production de sucre a connu un plongeon ces dernières années, Célia Himmelfarb.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus... c'est plus la source principale d'exportation du le prix international, plus, si vous voulez, les objectifs qui avaient été fixés même à la période de Castro, vous vous souvenez, les 10 millions de tonnes qu'il fallait produire, ils n'ont jamais arrivé à le faire non plus.
Et puis, on est arrivé jusqu'à 8 millions, pas 10 millions.
8 millions. 10 millions. Et donc... C'est les sucres ne peuvent pas nourrir les Cubains. Il faut qu'ils se remettent à produire comme en Europe on faisait des jardins potagers, etc. Et qu'ils peuvent réorienter, si vous voulez, toute leur économie d'abord pour que la population puisse se nourrir. Et aussi, ça va être lié. Qu'est-ce qui va provoquer ou pas la fin de l'embargo? Parce que l'embargo, en effet, c'est un élément extrêmement négatif. Hein. Je vous signale que récemment, 136 pays ont demandé aux Nations Unies à nouveau, un vote, hein, à nouveau, c'est plus de 30 fois qu'il était voté aux Nations Unies la fin de l'embargo. Mais l'embargo, ce n'est pas le seul problème. Beaucoup de gouvernements cubains disent c'est l'embargo, c'est trop facile.
Et oui, il ne faudrait pas que cela cache aussi les mauvaises décisions qui ont été prises hein, par le régime. On va en parler, mais peut-être un mot, Blandine Destremau, sur ce déclin de la filière sucrière qui s'est accéléré, Célia Himmelfarb le disait, avec le plongeon des tarifs, mais aussi avec le manque d'investissement. Et là, c'est un problème plus structurel aujourd'hui à Cuba. Les infrastructures sont en très très mauvais état, Blandine Destremau.
Oui, les infrastructures sont en mauvais état. L'industrie sucrière a hérité d'infrastructures de la période, disons, soviétique ou affiliée aux soviétiques, mais également de la période états-unienne qui a précédé l'Union soviétique et a dû procéder régulièrement à des concentrations, donc à des fermetures de certaines usines sucrières pour concentrer l'activité sur d'autres. Et en même temps, les équipements sont très vieillissants et de nombreuses usines ont dû fermer, comme vous le dites, du fait de la chute des prix qui rendait leur fonctionnement non rentable, du fait également du vieillissement des équipements et de toute la chaîne de production, du fait du problème de transport, etc. Et j'irai même un peu plus haut dans l'histoire. Je sais qu'on ne va pas parler de l'histoire ancienne, mais le modèle économique cubain est un modèle colonial d'exportation sucrière qui remonte bien avant l'Union soviétique, bien évidemment, dans laquelle l'économie cubaine n'est pas orientée vers sa propre subsistance et sa propre autosuffisance. Et comme le disait Célia Himmelfarb, la dépendance externe et l'extraversion en fait de l'économie est extrême et Cuba aujourd'hui est trop isolé en quelque sorte pour pouvoir survivre, sauf à relancer la production. Et là, du côté alimentaire, il y a beaucoup de tentatives de repaysanisation, c'est-à-dire de distribution de la terre qui avait été centralisée dans des grandes unités de production, de redistribution vers des paysans. Mais à Cuba, qu'est-ce que la paysannerie, en fait? La majeure partie des personnes qui étaient impliquées dans l'agriculture en tant que travailleurs n'étaient pas des paysans, étaient des ouvriers agricoles qui travaillaient dans de grandes unités. Il reste des paysans à l'ouest du pays. Il y en a encore beaucoup qui cultivent le tabac, mais aussi des plantes, de l'agriculture et de l'élevage d'autosuffisance et d'autoproduction. Mais il n'y en a pas suffisamment pour nourrir tout le monde. Et il y a un autre problème, c'est l'envahissement des terres par une plante qu'on appelle le marabout et qui rend extrêmement difficile la mise en culture une fois que le marabout a commencé à gagner, qui demande des gros engins. Donc là aussi, un investissement pour défricher à nouveau les terres et les rendre cultivables. Et quand on se promène à Cuba, on voit des friches et des friches et des friches envahies par le marabout, qui sont autant de terres non cultivées. Donc la remise en production, elle demande des investissements, comme vous le disiez, mais elle demande aussi un investissement humain important. Elle demande aussi que les campagnes soient équipées en transport, en Wi-Fi, par exemple. C'est une jeune génération qui ne veut plus vivre comme les cultivateurs d'il y a 50 ans ou il y a un siècle.
Vous avez parlé d'investissement humain, pardon de vous couper, à Blandine Destremo, c'est effectivement extrêmement important, puisque aujourd'hui, ce que l'on observe à Cuba, c'est le départ de plus en plus de jeunes, notamment beaucoup de jeunes qualifiés vers l'étranger, en particulier aux États-Unis. On en parle juste après ça.
Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina, bossa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría.
Bossa Cubana, le groupe cubain des années 60 et 70, Los Zafiros, sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, Cuba, le modèle voie rouge, c'est notre sujet aujourd'hui. Célia Himmelfarb et Blandine Destremo sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Cassandre Puel et Françoise Le Floch, avec l'aide de Denis Forget et mise en onde par Élise Le.
Con su suave movimiento, tan ligeros como el viento. Bossa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa.
Cuba s'enfonce dans une crise économique et sociale sans précédent. L'île traverse la plus forte vague migratoire de son histoire. Aujourd'hui, l'économie cubaine perd une main-d'œuvre précieuse, Célia Himmelfarb.
Oui, savez-vous qu'à la suite, bon, il y a plusieurs vagues des migrations, hein, et il y a la plus importante, je dirais, elle est à l'heure actuelle avec la crise à Cuba. Mais les successives vagues des migrations, ça date au moment de la Révolution, où dans certains quartiers de La Havane, Vedad ou autres, les producteurs, les gens qui avaient des commerces, qui avaient des casinos, qui avaient des industries sucrières, vont partir vers les États-Unis. C'est à peu près 100 000 personnes. Par la suite, il y a deuxième vague, grande vague d'émigration, c'est les Mariels, ce qu'on appelle les Mariels, les Marielitos. C'est les gens qui vont partir depuis les ports de Mariel vers les États-Unis, notamment, et Fidel Castro autorise qu'ils puissent partir parce qu'il y a eu 10 000 personnes à l'ambassade du Pérou à ces moments-là qui étaient accueillies. Et il dit, dans un discours assez connu, il dit, s'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent et qu'ils connaissent le monde de la consommation. Mais ils quitteront leur patrie. Ça, c'est le discours de Fidel Castro à l'époque. Par la suite, donc, il y a eu 80 000 personnes à peu près qui partent en 1980. Depuis la répression de juin 2021, il y a eu 240 000 personnes qui arrivent aux États-Unis et aussi beaucoup et nombreux vers l'Europe. Parce qu'arriver aux États-Unis, c'est très difficile à l'heure actuelle. Et je vous signale qu'avant, lorsqu'un Cubain partait, il y avait la politique des les pieds mouillés, les pieds secs. Pies mojados, pies secos. Ça veut dire qu'un Cubain qui partait des États-Unis, qui avait les pieds mouillés parce qu'il traversait le détroit de Floride, en arrivant aux États-Unis, notamment à Miami, avait les pieds secs. Et la doctrine américaine était à l'exil immédiat. Ce qui s'est passé avec Barack Obama, qui renoue les relations diplomatiques, il décide presque à la fin de son mandat, quelque chose que les Cubains étaient assez désespérés, c'est qu'il dit, puisqu'on a rétabli les relations diplomatiques, on va abroger les textes de pieds mouillés, pieds secs. Et là, ils n'ont pas pu arriver, si vous voulez, aux États-Unis et automatiquement avoir donc les refuges.
Et maintenant, aujourd'hui, ce sont effectivement beaucoup de jeunes adultes qui partent et qui laissent derrière eux des personnes âgées qui coûtent plus cher à l'État nécessairement en pension, en dépenses de santé. C'est quelque chose qui fragilise énormément l'économie cubaine, Blandine Destremo.
Alors, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui partent vers les États-Unis, mais pas uniquement, puisqu'on a surtout des statistiques à l'entrée aux États-Unis et à l'entrée au Mexique. On a beaucoup moins de statistiques sur les autres pays d'Amérique centrale et d'Europe ou d'autres pays, vers la Russie ou d'autres pays. Les Cubains partent soit à la faveur de l'ouverture des frontières nicaraguayennes à l'automne 2021, soit à la faveur d'avoir un visa, d'obtenir un visa, d'avoir un visa qui soit ouvert par exemple pour les États-Unis, ou d'avoir un passeport espagnol, ou d'obtenir un visa pour le Panama, ce qui est assez facile, ou pour la Guyana. Donc ils partent, on ne sait pas très bien quelle est leur trajectoire. Il y en a qui remontent vers les États-Unis, mais il y en a d'autres qui s'arrêtent en Amérique centrale. C'est très dur à tenir un compte en fait des gens qui partent, puisqu'ils sont toujours enregistrés comme résidents à Cuba. En partant, ils laissent derrière eux souvent des familles, bien entendu, des enfants qu'ils emmènent quelquefois avec eux, mais ils laissent derrière eux, et c'est ça que j'étudie beaucoup, des personnes âgées, leurs parents. On ne peut pas dire vraiment que ces personnes-là coûtent à l'État, puisque l'État cubain n'a pas vraiment développé de politique particulière qui s'occupe de ces vieux et vieilles personnes laissées derrière. Mais en tout cas, ils se retrouvent dans un abandon familial, avec un manque de soins, en fait, de care, de prise en soins familiales, et des politiques publiques qui ne compensent pas réellement ce manque de soins.
Et oui, cet abandon est d'autant plus inquiétant que le gouvernement cubain aujourd'hui tente d'endiguer la crise en faisant des économies. Le Premier ministre Manuel Marrero a annoncé au mois de décembre un plan drastique de réduction des dépenses publiques avec un certain nombre de conséquences sur la population cubaine, Célia Himmelfarb, et notamment en particulier sur les personnes âgées.
Oui, je vais ajouter que les derniers chiffres d'immigration pour l'année 22 et 23 ensemble, c'est 500 000 personnes vers les États-Unis. Et en effet, Blandine a raison, c'est plus difficile de mesurer vers l'Europe, mais il y en a énormément et ils s'adressent vers l'Espagne. La langue, effectivement, ça aide beaucoup. Concernant la réduction des dépenses des santé, la Cour de justice interaméricaine des droits de l'homme parle de l'effondrement du système de santé public et une augmentation généralisée de la pauvreté et les inégalités dues à la crise des soins et à la crise donc aussi le paradigme qu'on disait de Cuba, l'éducation, la santé, le logement sont presque gratuits. Et chose qui était vraie à un moment donné, au début de la Révolution, ces paradigmes n'existent plus. La santé est en crise aussi, les secteurs éducation aussi, et le problème grave, c'est aussi les diplômés. Les diplômés, ils font des études, les Cubains, mais ils n'ont pas de travail comme ingénieurs, ni comme avocats, etc. Donc, ils sont soit chauffeurs de taxi, soit ils partent à l'étranger. Mmh. Et à l'heure actuelle, je voulais vous dire que 10% de la population donc active et partie sur 11 millions d'habitants.
Oui, c'est absolument considérable.
C'est considérable. Et 5% de la population total. Donc sur 11 millions, effectivement, il y a plus d'un million de personnes qui sont déjà parties ou qui sont en train de partir parce que, à l'heure actuelle, à la suite des manifestations de juin 2021, le gouvernement les laisse partir ou les emprisonne. Ça, ce sont tous les mouvements qui défendaient les artistes, les écrivains, etc. C'est les cas d'Alcántara, c'est les cas de Michael. Alcántara est un artiste, 3 ans de prison. Michael, c'était le créateur de la chanson Patria ou vie.
Alors, on va y venir, Célia Himmelfarb. On va venir à cette contestation sociale aujourd'hui qui est apparue déjà en juillet 2021, qui semble réapparaître aujourd'hui. Mais peut-être d'abord, Blandine Destremenot, est-ce que ce plan de réduction des dépenses publiques qui a été donc annoncé il y a quelques mois par le Premier ministre cubain peut être qualifié de néolibéral ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un tournant dans la politique économique menée par le régime cubain ?
Moi, je ne pense pas que ce soit un tournant. Je pense que c'est plutôt une accélération et je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de néolibéral. En tout cas, je ne crois pas que ça apporte grand-chose de le qualifier de néolibéral. C'est un ajustement comme en ont subi de nombreux pays arabes, latino-américains ou autres. Quand ils sont surendettés, en fait, c'est un ajustement des dépenses publiques aux ressources. Et malheureusement, ça tombe sur des secteurs budgétaires, sociaux en particulier. Mais les secteurs sociaux ont subi une érosion progressive. En fait, le salaire et les pensions des gens sont la principale variable d'ajustement des dépenses aux programmes sociaux, c'est-à-dire que la valeur réelle des pensions, le pouvoir d'achat des pensions de retraite des personnes âgées à Cuba n'a cessé de s'éroder et a perdu sans arrêt de son pouvoir d'achat jusqu'à ne plus permettre aux personnes ni d'en survivre, ni de manger correctement et de satisfaire leurs besoins. Donc finalement, on a une accélération par la réduction des subventions, mais comme on l'a signalé plus tôt, la réduction en fait des quotas de biens, notamment alimentaires, mais aussi d'hygiène, qui sont donnés par la libretta, donc par le carnet de rationnement, c'est déjà une mesure de réduction en fait des dépenses publiques. Donc les dépenses, Carmelo Mesalago, qui est un économiste cubano-américain, le montre avec des courbes très précises. En fait, de fait, les budgets sociaux n'ont cessé de se réduire depuis le début des années 2000 et ne permettent plus de protéger réellement les gens en protection sociale.
Et c'est sans doute l'une des raisons de cette colère populaire qui s'est exprimée le 11 juillet 2021. Écoutez.
Nous sommes ici à cause de la répression contre le peuple. Ils nous font mourir de faim. La Havane s'effondre. Nous n'avons pas de maison, nous n'avons rien. Mais ils ont de l'argent pour construire des hôtels et ils nous font mourir de faim.
La sécurité de l'État m'a battu, moi et ma fille, une mineure, parce qu'on marchait dans la rue.
À bas la dictature, à bas les Castro, à bas les chiens communistes.
Liberta, 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 liberta.
C'est le moment, il n'y en a pas d'autre. C'est la définition totale de comment le communisme va tomber. Je soutiens à 100% la chanson Patria y Vida et au revoir au communisme.
France Culture. Entendez-vous l'écho. Tiphaine de Roquigny.
Patria y Vida, la patrie et la vie, une chanson écrite par des opposants au régime cubain qui parodie le slogan castriste « La patrie ou la mort ». C'est devenu un slogan anti-gouvernemental lors des manifestations donc de juillet 2021. Ce 11 juillet, des dizaines de milliers de Cubains descendaient dans la rue pour protester contre les pénuries et réclamer plus de liberté, Célia Himmelfarb. C'est une opposition qui était peut-être plus économique que politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais les deux. Jamais l'économie est loin du politique, vous savez. La réaction était d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de San Isidro, mais c'était très spontané dans toutes les villes. Les gens sortaient, 42 villes, et la répression a conduit à 1120 arrestations. Et c'était le mouvement d'artistes, le mouvement des écrivains, le mouvement des chanteurs, mais aussi le peuple qui sort ils expliquent dans votre petit texte vidéo en disant nous voulons manger, on n'arrive pas à vivre. Donc c'est économique, mais c'est aussi politique parce que la chanson demande plus de liberté d'expression aussi, vous voyez. Ça va ensemble, c'est un phénomène qui va ensemble.
Blandine Destremau.
Oui, je suis d'accord, bien évidemment. Ça va ensemble et du point de vue que moi j'observe dans mon travail de recherche à Cuba, c'est-à-dire pour beaucoup les secteurs populaires en fait de la société, j'observe une opposition économique où la réclamation de liberté, c'est avant tout celle de la liberté d'entreprendre et du droit finalement d'être protégé dans sa subsistance. Mais comme le dit Célia, le politique n'est jamais très loin et la critique qui s'élève contre l'État cubain, c'est beaucoup une critique contre la bureaucratie, contre les multiples obstacles, en fait. C'est pas une pauvreté comme on voit dans d'autres pays où l'économie de marché est tout à fait répandue. C'est une pauvreté qui est pensée par les gens comme engendrée par l'État, engendrée par tous ces obstacles à entreprendre, toutes ces files d'attente, ces pénuries que les gens ne voient pas comme venant du marché, mais voit comme venant de l'appareil d'État. Et là, moi qui ai travaillé dans d'autres pays également, à observer en particulier la pauvreté, je trouve que c'est très différent. C'est une pauvreté qui est politisée parce qu'elle est pensée par les gens comme engendrée par des mesures publiques. Donc, pas seulement par des politiques publiques, mais aussi par des mesures au quotidien.
Donc ce qui est remis en cause, Célia Himmelfarb, vous êtes d'accord avec cela, c'est ce modèle économique cubain très centralisé, fondé sur la toute-puissance d'un État militaire.
Exactement, là on venait de partager cet avis avec Blandine Destremau, c'est-à-dire c'est le modèle économique qui était choisi parce que Cuba est une économie centralement planifiée, d'accord ? C'est ce qu'on définissait nous pour les pays de l'Est et l'ex-Union soviétique, une économie centralement planifiée. L'emploi est à 70% dans les secteurs public. Et il y a eu, avec les nouveaux textes, la nouvelle constitution et aussi un petit peu le volet des droits économiques de la nouvelle constitution en 2018-2019, une ouverture vers les autres entrepreneurs, tout petits autres entrepreneurs, hein, c'est-à-dire une chambre, louer une maison et avec des chambres d'hôtel, ou servir de repas, ou réparer des vélos, ou etc. Vous voyez des mini-mini auto-entrepreneurs. Mais le problème, c'est les problèmes des systèmes politiques à Cuba. Les systèmes politiques pour Cuba, c'est un parti unique. Il y a des élections au sein du Parti communiste, ça veut dire que ce n'est pas une démocratie libérale. Et au sein du Parti communiste, ils disent que c'est des tendances qui vont choisir le président. Ils ont choisi le président Canel en 2018-2019. Et il a assumé en avril 2019.
Oui, et c'est effectivement pardon de vous couper, c'est Célia Himmelfarb, c'est un mouvement de libéralisation qui s'est enclenché, mais qui est en effet encore très timide.
Nous reconnaissons comme le principal acteur économique de notre société le secteur d'État et en complément de cette économie étatique, le secteur privé. Nous ne nions pas l'existence du secteur privé, mais il n'est qu'un complément.
Avant, je travaillais pour l'État. Je n'avais pas d'autre choix parce qu'avant, ce n'était pas autorisé, ça n'était pas légal. Et quand ils ont légalisé, j'ai préféré cette option plutôt que de travailler pour l'État.
La rue, c'est un bon exemple. Il y a 20 ans, cette rue était la plus moche de la Havane et il n'y avait qu'un seul commerce, mon salon de coiffure, avec deux employés, et l'école pour la partie sociale. L'idée, et c'est ce qui s'est passé, c'était de générer un bénéfice économique et en même temps un bénéfice social pour la communauté. Et je parviens aujourd'hui à prouver aux personnes qui ne pensent qu'à l'argent qu'investir dans le social est un bénéfice et qu'ils y gagneront plus.
Voilà, on a entendu d'abord le président Miguel Díaz-Canel qui a donc succédé à Raúl Castro en 2018, puis Papito qui est un coiffeur, barbier et entrepreneur du secteur privé cubain dans un reportage de RFI du 18 mai 2022. Et donc il y a cette esquisse de libéralisation, Blandine Destremau, mais aujourd'hui le gouvernement cubain pourrait aller plus loin, devrait peut-être aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je pense qu'il y a plus qu'une esquisse, en fait. Il y a une libéralisation de secteurs marchands, d'entreprises marchandes, d'entreprises de services, d'entreprises de biens également, qui a été décidée déjà au moment où Raúl Castro était président, pour ouvrir l'économie, pour soulager aussi le budget public. Donc il y a aujourd'hui pratiquement un quart des actifs qui sont employés dans des secteurs privés marchands. Donc c'est plus qu'une esquisse. Mais ce que je constate moi dans mes enquêtes, c'est qu'il y a une très forte ambivalence, ou en tout cas les gens perçoivent une forte ambivalence de la part de l'État. Dès qu'ils arrivent à développer des entreprises un peu significatives, l'État arrive avec des mesures de restriction qui les obligent à fermer ou à restreindre leurs activités. Il y a une très grande incertitude, il y a des impôts qui montent et qui descendent d'une année sur l'autre, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il y a des restrictions aussi dans la distribution de terres dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont tenues par les paysans que pour 10 ans maintenant et 5 ans au début. Donc en fait, ils sont toujours sous la coupe de l'État et l'autorisation d'entreprendre est toujours soumise à des conditions qui sont le passage par l'État, en particulier pour les importations. Les importations sont maintenant autorisées de la part des petites entreprises privées, mais pour autant, elles doivent passer par l'intermédiaire d'importateurs qui probablement relèvent de l'armée et qui font filtre. Il y a ce qu'on appelle en économie des gatekeepers, en fait, des gardes-barrières qui font filtre et qui empêchent la liberté d'entreprendre.
Donc l'État est ambivalent dans cette volonté de libéralisation. La population cubaine l'est également, Célia Himelfarb.
Écoutez, la population voudrait vivre convenablement, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer. Ça, c'est mon impression. J'ai voyagé déjà 5-6 fois à Cuba et j'ai pu le voir. La question, c'est comment la population le voit. C'est un État, je disais, c'est une économie centralement planifiée. Et les individus voudraient entreprendre. Ils voudraient entreprendre. Et Blandine l'a très bien expliqué. Il y a des contraintes et des contraintes juridiques, etc. Et ça, au niveau de la petite entreprise ou des autres entrepreneurs. Mais au niveau des grandes entreprises, il y a eu des entreprises, par exemple, françaises, ne parlons pas des américaines, hein, européennes, qui ont dû partir, par exemple, parce que les règles de jeu changeaient, il n'y avait pas de sécurité juridique. Donc, et puis, vous ne pouvez pas encore avoir à 5% une entreprise international installé à Cuba. Hein. Ça nous fait penser au début de la Chine quand il commence à s'ouvrir, qui n'autorisait pas plus de 51%, si vous voulez, d'ouverture du capital. Donc, c'est à tous les niveaux, la population attend beaucoup de cette ouverture. Attend. Bien sûr, ils ont été obligés d'ouvrir un peu et créer l'autre entrepreneuriat, mais à un niveau encore très, très... je dirais,
limité.
Commence. Limité.
Ouais, une ouverture limitée. Et aujourd'hui, ce qui peut inquiéter, alors que la colère populaire s'est à nouveau exprimée le mois dernier à Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, c'est que ce gouvernement cubain ne semble pas vraiment avoir de vision. C'est ce que vous nous disiez quand on préparait cette émission, Blandine Destremau. On a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de cap qui est fixé.
Je ne parle pas pour moi-même, même si je suis d'accord avec cette... Je parle pour les gens avec qui je parle, effectivement, ils ne comprennent pas, en fait. C'est illogique. Je ne pense pas que tout le monde souhaite être entrepreneur, pas plus à Cuba qu'en France ou dans d'autres pays. Mais les gens qui veulent continuer à travailler pour la fonction publique souhaitent être protégés, puisque c'est une espèce de pacte quand on est salarié et fonctionnaire. Et les entrepreneurs souhaiteraient avoir cette sécurité juridique à moyen terme, au moins, pour pouvoir faire des investissements. Or, les règles du jeu changent en permanence et il y a une insécurité monétaire maintenant qui s'est ajoutée en plus, puisqu'il y a une très forte dévaluation qui a démarré il y a 3-4 ans. C'est une nouvelle habitude qu'en Amérique latine, dans des pays d'hyperinflation, on peut connaître, mais à Cuba, c'est relativement nouveau. Donc, il y a une très forte insécurité et les gens ne comprennent pas où va l'État. Et je pense que même pendant les heures où l'autoritarisme était plus fort, Fidel Castro en particulier, donner des directions, nommer les choses, embarquer les gens, alors pas tout le monde, mais embarquer les gens dans cette grande aventure de résistance, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'orientation.
Il n'y a plus cette foi.
Il y a une incompréhension généralisée. Je pense que la colère, elle vient aussi de l'incompréhension.
Merci beaucoup Célia Imelfarbe et Blandine Destremo de nous avoir ainsi éclairé sur cette crise, cet effondrement économique de Cuba. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Blandine Destremo. C'est Vieillir sous la révolution cubaine, une ethnographie parue aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et Célia Imelfarbe, je rappelle que vous êtes économiste, professeur invité à l'Institut des hautes études d'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Un grand merci encore.
À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense, qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois? Quand le crépuscule est immense, que le temps finit pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis si étoile là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, la découverte musicale du jour. C'est le silence, nouveau single du groupe Junior. Demain au Vietnam, Capitalisme Now, nous serons en compagnie d'Étienne Espagne et d'Emmanuel Panier. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.
La distance, on s'habituera.